Et vous écoutez France Culture. J'ai toujours admiré Burnett, qui me semble un des auteurs américains les plus négligés. Il y a des moments de réalité dans tous ses livres qui sont complètement écrasants. Plus d'une fois, à leur lecture, je me suis retrouvé en nage. John Huston. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, consacré ce soir à deux figures phares du roman noir américain, Chris Offutt, dont le dernier roman Nuit Appalaches est paru aux éditions Gallmeister, et William Riley Burnett, mur porteur du Hard Boiled, à qui un somptueux volume est consacré dans la collection Quarto aux éditions Gallimard. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre noir, Mauvais genre polar. Ce soir, je suis en compagnie de Benoît Tadier, bonsoir.
Bonsoir François.
Benoît Tadier, historien, s'il en fut, du roman noir américain, deux livres essentiels parus aux presses universitaires de France et que tous les amateurs dignes de ce nom de littérature policière américaine doivent avoir lu. Et Benoît Tadier, éditeur, puisque donc vous avez supervisé avec Marie-Caroline Aubert qui, elle, assurait le volet retraduction, complément et retraduction.
Oui.
Donc un volume formidable qui paraît en Quarto Gallimard, après Manchette, après Chandler, après Hammett, après Japrisot. Et bien c'est William Riley Burnett, donc Underworld, roman noir, qui nous est offert. Est-ce que c'est justice, comme on dit, Benoît Tadier?
Personnellement, j'en suis convaincu.
Oui, ça vous, ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui.
Parce que pour deux raisons. D'abord parce que c'est un auteur très important, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et ensuite parce que les traductions n'étaient pas au niveau où elles auraient dû être. Et donc c'était bien de pouvoir les ressortir dans une version qui enfin leur en justice.
Oui, parce que aujourd'hui, systématiquement, quand on évoque Chandler, Hammett et la France, on commence par les traductions. Avec Burnett, c'était vraiment aussi dramatique qu'avec Chandler, notamment?
Oui, peut-être pas tout à fait aussi spectaculaire que pour Chandler. Il y a eu parfois 100 pages entières coupées d'un unique roman, mais enfin, il y a eu quand même de belles excisions, disons, des choses qui n'auraient pas dû être enlevées et qui, heureusement, retrouvent leur place dans cette édition. Donc oui, il a souffert comme tous les auteurs de la série noire des années 40 et 50.
D'ailleurs, le texte que j'ai choisi ce soir, sous la recommandation d'Hubert Prolongeau, c'est un texte que tout le monde découvre dans ce beau pays qu'est la France. Comment va Hubert Prolongeau ?
Bien, très bien, merci.
Actualité du grand homme.
Actualité qui colle à la vraie actualité, puisque j'avais coécrit avec Arnaud Delalande un scénario de bande dessinée, Le travail m'a tué, qui était inspiré par une enquête que j'avais fait en 2009 avec Paul Morera, au moment où le suicide au travail était devenu un thème médiatique dont on parlait beaucoup, suite à ceux qui avaient eu lieu chez Renault et chez France Télécom, dont les dirigeants sont jugés aujourd'hui. Et on avait recueilli avec Paul une histoire très très émouvante d'un des suicidés de Renault, qui permettait de bien comprendre comment ce garçon, cet ingénieur qui en voulait à fond, qui s'était vraiment donné, qui avait été totalement piégé par un système, par la réorganisation du travail, s'était senti totalement désemparé. Et avait fini par mettre fin à ses jours, provoquant quand même, de par l'obstination ensuite de sa veuve, une victoire juridique non négligeable, puisque Renault avait été condamné pour faute inexcusable. On a transposé cette histoire dans un univers plus fictif et écrit un scénario auquel Grégory Mardon, dessinateur, a donné, je trouve, une humanité assez bouleversante. Donc c'est assez étonnant, parce que à l'inverse d'un roman où on se relit, une bande dessinée, il y a l'apport de quelqu'un d'autre, et là vraiment je trouve qu'il a fait un travail assez incroyable, et que il donne parfaitement à voir la manière dont la machine broie ses hommes jusqu'à les pousser à se donner la mort.
Merci Hubert, donc recommandation évidemment de lecture. Et bien maintenant, Céline Duchesnet.
Oui, bonsoir François.
Comment va-t-elle ce soir ?
Je vais très bien.
Qui avez-vous choisi pour notre encyclopédie pratique des mauvais genres ?
J'ai choisi Adèle Tincelin.
Ce carnet rouge, c'est un petit carnet offert un soir d'anniversaire par deux copines, 24 heures après que j'ai compris que je n'étais pas une fille, de manière très très soudaine dans ma vie. Donc nous prenons un verre, j'ai l'élan de leur partager ça, et elles m'offrent ce cadeau, et voilà, je reçois ce petit mot dans ce carnet qui me dit que c'est le carnet d'Aude, mon prénom d'avant. C'est ce qui deviendra un petit journal intime de ce moment très particulier et bouleversant de ma vie, où je prends des notes très vite, juste pour me défouler, juste pour poser les choses de ce qui me traverse à ce moment-là.
Toutes ces notes jetées sur ce petit carnet rouge ont donné lieu, au fil du temps, à « On n'a que deux vies », journal d'un transboy, un livre publié aux éditions Cambourakis dans la fameuse collection Sorcières. Adèle Tincelin y raconte, sous la forme d'un journal qui s'étire sur un peu plus de 2 ans, la transition qu'il a vécue à l'âge de 41 ans, son rapport au corps, à la danse, aux sexualités, comment il est passé d'une vie d'absence à soi, pour reprendre ses mots, à une vie de présence à soi.
L'expérience du moment qui est très troublante, c'est que du jour au lendemain, je me retrouve à poil, je me retrouve nue. Enfin, tout ce que je croyais être moi, ou presque tout, vole en éclats. Et donc du coup, il y a vraiment cette expérience d'une renaissance peut-être, voilà, très forte. Et où du coup, à travers la question du genre, mais j'imagine ça aurait pu être autre chose comme bouleversement de vie, je vais être amenée à tout réinventer, réajuster. Il y a une dimension pour moi aussi, mais ça c'est a posteriori, presque spirituelle. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui a compté après dans une sorte d'éveil aussi à une certaine forme de spiritualité. Je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas pour moi aujourd'hui, dans d'un coup cette perte totale d'ego, de qui je suis momentanée, une expérience très forte spirituellement, on va dire.
Alors cette culture féerique, qu'est-ce que c'est ?
Alors pour moi, les fées, c'est la découverte d'un univers, d'une culture féerique qui est basée sur un mouvement qui s'appelle les Radical Fairies, les fées radicales, issues de la côte ouest américaine de la fin des années 70, où des hommes gays à l'époque vont décider d'aller chercher des territoires où des formes de spiritualité, de politique plutôt anarchiste et un certain rapport à la terre et à l'identité évidemment vont pouvoir se croiser et s'épanouir. Donc, à partir de la fin des années 70, il y a de la création de sanctuaires, on les appelle des sanctuaires, qui sont des espaces ressources pour des personnes qui, gays au début et puis aujourd'hui queer, transpédéguine, femme aussi. Où les personnes peuvent venir se ressourcer et se goûter à des formes de gouvernance qui s'inspirent à la fois d'une spiritualité un peu païenne, on va dire, et de politiques assez radicales. Avril 2017. Je pense à Folterre, pays des fées radicales, pays des bois qui bruissent de spiritualité, de politique et de sexualité. Je pense à comment je pars, comment j'ai envie de partir, à combien j'ai envie de serrer un arbre dans mes bras, qu'on me serre contre un arbre dans mes bras. J'ai envie d'être nue et de sentir la terre et l'écorce. J'ai envie du son de la terre et du son du ciel. J'ai envie de sentir que quelque chose hors d'ici m'attire, me donne envie d'avancer, de bouger, de partir, de décoller. J'ai envie de mains sur mon dos, de bras autour de moi, d'être à l'autre, de me confier, de me prêter, avec des fougères, des mousses, des racines. J'ai envie de sentir les racines sous mes pieds, la peau de l'arbre contre l'écorce de mes paumes. J'ai envie de me faire enculer contre un tronc, en douceur, infiniment lentement et amoureusement. Je pense au pouvoir, aux connexions, à sentir les forces terrestres, à ne pas être seul et à être seul, à sentir la force seule et à commencer pleinement du nouveau.
Pour retrouver Adèle Tincelant, La Fée, un livre, un seul, on n'a que deux vies, journal d'un transboy, publié aux éditions Cambourakis. L'occasion de suivre pas à pas la renaissance d'une personne à travers ses questionnements, ses pensées, ses envies, la redécouverte du désir, l'occasion aussi de virevolter à ses côtés au pays des fées radicales dans le sanctuaire de Folterre. À noter par ailleurs la rencontre entre une fée et une sorcière le 10 juin prochain à la librairie Michel Firk à Montreuil. Adèle Tincelant et Camille Dusselier échangeront autour de l'invention de nouveaux modes de soins et d'accompagnement, car que ce soit à travers nos relations aux autres, d'un point de vue politique, spirituel et identitaire, pourquoi ne pas réinventer nos vies ?
Merci Céline, donc pour cet André Adèle Tincelin de notre dictionnaire des mauvais gens. Benoît Tadier, une réaction sur les fées notamment ?
Je me sens un peu plus à l'aise avec les gangsters, personnellement.
Ah oui, non, il est fait, vous n'êtes pas... Est-ce qu'il y a des fées dans certains romans noirs, la figure de la fée? On va essayer de la trouver là où elle n'est pas.
Ben, il y en a sur le plan sémantique, puisque en anglais, fairy, c'est la fée, mais c'est aussi l'homosexuel, justement. Donc on a peut-être là un lien qui est à explorer, disons.
Très bien, ben on va explorer certains liens ce soir, peut-être pas des liens extraordinairement féeriques entre les individus, mais en tout
cas,
des liens
féeriques, certains, les choses.
Voilà, ça va être à nous de mettre du merveilleux dans ce monde de brut, et car brut, il y aura. On va commencer avec Christophe Hutt, donc, qui a publié alors un livre formidable chez Gallmeister, Nuit Appalaches. On peut dire quelques mots rapides sur cet auteur américain, Hubert Prolongeau, avant de l'entendre lui-même pendant près d'une demi-heure. Il nous accordait un entretien à l'occasion de la sortie de ce livre.
Ben, Christophe Hutt, c'est une de ces jonctions parfaitement réussies entre ce qu'on appelle le nature writing et le roman noir. Il est né en 1958, il est dans le Kentucky, il y a
très
grandi.
Très bonne année pour naître.
Excellente, excellente. Je regrette moi-même d'être légèrement postérieur, mais on ne choisit pas. Et il est né là dans le Kentucky, proche des Appalaches, et toute son œuvre se passe dans ce territoire qui est un territoire, on verra qu'il n'aime pas le mot, mais je l'emploie quand même, qu'on appelle aujourd'hui des rednecks, c'est-à-dire de cette Amérique profonde, censément trumpienne, et qu'on considère généralement comme un peu beauf. Et lui, justement, lui donne une humanité assez extraordinaire. Il l'a fait d'abord dans un recueil de nouvelles qui s'appelait Kentucky Straight. Puis il a écrit deux romans, Le Bon Frère, Le Fleuve et l'Enfant. C'est un auteur rare, il écrit peu. Et parce qu'il a été pendant longtemps aussi pris par l'écriture de scénarios de séries télé. Et là aussi, on verra qu'il a tapé quand même dans le haut du panier, puisqu'il a été l'un de ceux qui ont beaucoup écrit pour True Blood, série sympathique, et surtout pour Weeds, qui est une des séries très drôles qui se passait dans le milieu du trafic de drogue dans des banlieues bourgeoises américaines. Mais ces exercices ont hélas retiré un peu Christophe Hutt de la scène littéraire, sur laquelle il est revenu magistralement cette année avec Nuit Appalaches, qui est peut-être son plus beau livre.
Merci Hubert. L'entretien va être traduit par FDR. On va écouter Christophe Hutt, et le début de l'entretien a évidemment porté sur ses influences, ses années de formation et surtout la figure de son père qui, comme vous allez le voir, n'est pas n'importe qui.
Tous les livres j'ai lu, tous. Je préfère John Steinbeck, Jim Harrison, Flaubert, Camus, Jean Rhys, ou Angleterre, Flannery O'Connor. Il y a beaucoup des écrivains que j'aime. Et aussi la bande dessinée et les films.
Et les bandes dessinées, les comics DC, oui. Marvel, est-ce que vous avez un super-héros préféré? Ou au cinéma, est-ce que le roman noir vous a influencé?
Les romans de la 1940s, 1950s.
Les romans des années 1940, 1950, j'aime beaucoup.
And the black and white movies.
Le roman noir et puis aussi les films noir et blanc de l'époque.
Of that time. The movies of the 1970s.
Également les films des années 1970.
Avec le anti-hero.
Avec les anti-héros, bien sûr.
Oh, and my father. The father always influences the son.
Le père a toujours une forte influence sur le fils, bien sûr.
For good and for bad.
Pour le meilleur et pour le pire.
My father modeled the job as a writer, showed me.
C'est mon père, en effet, qui m'a fait faire mon apprentissage, qui m'a servi de modèle.
And I did not get along.
Mais on ne s'entendait pas tous les deux avec mon père.
He didn't get along with anybody.
En fait, il s'entendait avec personne.
At all.
Du tout.
And I didn't like science fiction.
Et moi, la science-fiction, ça me barbait.
He mostly wrote pornography.
Il écrivait surtout des romans pornographiques.
That was difficult for a son.
Et ça, c'était un peu lourd à porter pour un garçon, un fils.
But of course, I have nothing against pornography.
C'est pas que j'ai quoi que ce soit contre la pornographie.
But it's not what I wanted to write.
Mais c'est pas ce que je voulais écrire.
Or science fiction.
Ni la science-fiction non
fantasy.
Plus, ni la fantasy.
Hubert Prolongeau.
Le titre français de votre roman est Nuit Appalaches, donc Appalaches a été mis, ce qui n'est pas le cas dans le titre original, dans le titre. Parlez-nous de cette région, de ce que ça veut dire pour vous d'écrire là, d'écrire sur elle. Vous y vivez, qu'est-ce que c'est que cet enracinement dans ce coin qui est encore peut-être l'incarnation du mythe de la frontière?
It is my home. It's where I grew up.
C'est chez moi.
Boy.
C'est là où j'ai grandi.
It's very beautiful.
C'est une très belle région. Ma ville natale.
200 people.
Avait 200 âmes.
On dirt roads, roads of la terre.
C'était des routes de terre.
The grand forests.
Et il y avait d'immenses forêts.
Et all the birds and all the
flowers. Des tas d'oiseaux, des tas de fleurs.
And the animals.
Des animaux, un foison.
It's the most isolated part of the United States.
C'est la région la plus reculée des États-Unis, la plus isolée.
Because of the geography.
En raison justement de la topographie, de la géographie et de ces montagnes, les Appalaches.
Les montagnes, it is impossible to cross the mountains.
Ces montagnes sont impossibles à franchir.
So the pioneers, the early pioneers, when they came to.
Alors les premiers convois de pionniers.
North America, they went.
Les tout premiers.
North.
Ils sont d'abord passés par le nord, ils devaient remonter au nord ou passer par le sud pour contourner les Appalaches.
And then went west.
Et puis après filer vers l'ouest.
As a result, the mountain culture was preserved.
Et c'est ce qui a permis de préserver cette culture montagnarde.
A very old way of thinking.
Un mode de vie, un mode de pensée très ancien, un peu archaïque.
Of living.
Un mode de vie ancien aussi.
Closer to nature.
Très près de la nature.
There's no job, no industry.
Et puis par ailleurs, il y a pas de boulot, il y a pas d'usine, pas d'industrie.
No magasin, no stores.
Pas de boutique, pas de magasin.
No librario, no cinema.
Pas de bibliothèque, pas de cinéma.
No art gallery.
Pas de galerie d'art.
So at 19,
quand j'ai eu 19 ans,
I left.
Je suis parti.
And you came back.
Many times.
Et vous êtes revenu, oui, maintes fois.
But
je suis revenu.
Leave, partir, revenir, beaucoup de fois.
Et les épines.
J'aimerais parler de la personnalité de votre héros, du héros de Nuit Appalaches, Tucker, qui est un homme assez ambigu, puisque au début du roman, il a 18 ans, et il est justement de retour dans son Kentucky natal après avoir combattu en Corée. Et il assiste à une scène de viol d'une jeune femme, il la secourt et puis il part avec elle et c'est le début d'une grande histoire d'amour. C'est un homme qui va utiliser la violence fréquemment et en même temps qui est capable d'une grande bonté, qui est capable de beaucoup d'amour envers sa femme, envers ses enfants. Cette personnalité ambiguë qui est la sienne, est-ce qu'elle a été construite par cette région dont vous parliez à l'instant? Est-ce que c'est la guerre qui a eu cette influence sur lui? Qu'est-ce qui a construit Tucker?
Je préfère to make a quotation.
Faire une citation.
From Flaubert. Madame Bovary, c'est moi. Et Tucker, et c'est moi. On the inside.
À l'intérieur.
But pas l'extérieur.
Mais pas son apparence extérieure.
And yes, he does embody the people of the mountains.
Il incarne en effet ces hommes de la montagne.
Family loyalty.
Ce qui compte, c'est la famille, la loyauté.
The most important thing of all.
C'est le plus important au monde.
There is nothing much but.
Et il n'y a pas grand-chose d'autre, hormis la famille.
And he is a good man.
C'est un homme, en effet, qui a de la bonté.
Who will do a bad thing.
Mais qui est prêt à faire des choses moches.
For good reasons.
Mais pour de bonnes raisons.
So he is a complicated man.
Donc en effet, c'est un homme ambigu, complexe.
And yes, he is a violent man.
En effet, il a de la violence en lui.
In part due to the war.
En partie due à la guerre, oui.
And also, his children were threatened.
Et puis par ailleurs, on a menacé ses enfants.
By the state.
Ça, c'est les services de l'État, les services sociaux, qui menacent de prendre ses enfants.
Élément important, la durée durant laquelle se déroule ce récit, qui n'est pas si long, entre 1954, c'est-à-dire au lendemain de la guerre de Corée, 1971, la guerre du Vietnam qui apparaît avec des étapes en 1964 et 65. Effectivement, on est dans ce Kentucky, on est dans le monde des collines, ce que vous appelez l'univers des collines, avec Tucker et sa famille, et la réalité américaine apparaît au loin. C'est-à-dire que la guerre de Corée est une mémoire, ce sont des souvenirs qui apparaissent. Il a gardé les objets de la guerre, il a gardé ses médailles, et puis surtout il a appris à maîtriser sa violence et à devenir un homme violent mais extrêmement organisé dans sa violence. On parle un moment de la guerre du Vietnam, on a vraiment effectivement le sentiment d'un monde un peu coupé, je dirais, de l'Amérique que l'on connaît par l'actualité et l'histoire.
Oui, c'est vrai.
Comment peut-on mettre en scène un univers comme ça qui est où les gens sont fabriqués par l'histoire et en même temps coupés d'elle?
Well, I know the history.
Moi, je la connais, l'histoire, la grande histoire.
The reader
et le lecteur la connaît également.
You know the history.
Vous la connaissez.
But when you're in history,
mais lorsqu'on est plongé dans l'histoire,
you don't always know that it is.
On n'en a pas conscience forcément.
Important.
On n'a pas conscience de l'importance des moments qu'on
What's
vit.
In front of you is manger, le café,
on s'occupe de l'immédiat.
La famille,
manger un bon café le matin, la famille.
In the Appalachian Mountains, not everybody has a telephone.
Dans les Appalaches, tout le monde n'a pas le téléphone.
There was one newspaper.
Il y avait un seul journal.
Once a week.
C'était un hebdomadaire.
Oui. It was local only.
Et c'était un hebdo local, strictement, une feuille de chou.
Not national news.
Donc,
il
n'était pas au courant de l'actualité nationale, encore moins internationale.
No information from Europe or New York.
On ne savait rien sur l'Europe ou sur Washington ou New York.
It was not important.
Tout ça ne comptait pas.
What was important is the local.
Ce qui comptait, c'était ce qu'on vivait sur place, l'environnement immédiat.
Now this was before internet.
Ça, c'était bien sûr avant l'avènement d'Internet. Heureusement,
il y a Internet. The only source of information was television.
Donc la seule source d'information, right? C'était la télévision.
But when I was a kid,
mais quand j'étais gamin,
there was one channel,
il n'y avait qu'une seule
just
chaîne,
one, from another, another état, West Virginia,
qui était diffusée depuis la Virginie occidentale, donc même pas depuis notre propre état, le Kentucky.
And because of the terrain, the geography, the mountains.
Et là encore, à cause de cette géographie des montagnes, les ondes ne passaient pas bien.
Of the television was often bad.
On recevait très mal l'image, la télé.
So we could écouter la personne.
Donc on avait le choix, on pouvait soit privilégier le son
with no picture,
au détriment de l'image, il fallait la zapper pour avoir un peu de son.
We could see a picture
ou
with no sound.
On pouvait choisir d'avoir une vague image sans le son.
So, and not everybody had a TV.
Et en plus, tout le monde n'avait pas un poste de télé.
Money, or a telephone,
ça coûtait cher.
Or a
et encore
car.
Moins un téléphone ou même une voiture.
So you are right. It was very distant.
Donc vous avez raison. C'était une région très reculée.
Vous dépeignez une Amérique qu'on appelle celle des rednecks et que nous on caricature sans doute beaucoup en l'imaginant comme un tas de paysans un petit peu abrutis, fascinés par les armes, vaguement fascisants et qui ont massivement élu Donald Trump. Vous leur donnez une humanité formidable. Comment vous les voyez, ces rednecks?
First of all, le mot redneck est mal.
D'abord,
je n'aime pas le mot.
Je déteste ce mot, rednecks, les coups rouges. C'est très péjoratif, c'est une insulte.
To denigrate people.
C'est vraiment fait pour les humilier.
It's redneck or hillbilly. These are terms.
Hillbilly aussi, qui veut dire un peu genre la tarte des montagnes, des collines. Oui, ce sont des épithètes.
The language of the bigot.
En fait, ce sont des gens sectaires qui les appellent comme ça.
Il y a beaucoup de mots pour la femme, pour la black person, pour la Jew.
Pour les Noirs, pour les Juifs, il y a toutes sortes. Pour les femmes, il y a toutes sortes d'épithètes aussi.
It's the same.
Insultantes. Eh bien, c'est la même chose, j'estime.
I reject these terms.
Donc, je rejette l'emploi de ce terme.
Because they are mean. Cruel.
C'est de la méchanceté, c'est de la cruauté de les appeler ainsi.
And how do you see them?
They are me. I love them.
Mais ils sont comme moi.
They are human beings.
Je les aime. Ce sont des êtres humains.
How do I see my neighbors,
donc,
my family,
est-ce que je vois
my friends?
Mes voisins, mes proches, ma famille, mes amis.
The same way you see your
ben, un peu comme vous, vous voyez vos amis, vos voisins et vos proches avec bienveillance, compassion.
Let's see, liberté, égalité et fraternité. So many people in the United States.
Parce qu'aux États-Unis.
Have the same idea, the same attitude.
Il y a tellement de gens qui partagent l'attitude d'Hubert.
About the people in.
Non, alors je précise quand même avant de passer pour un sale raciste. Je définissais la manière dont justement en France, en la qualifiant de caricature, nous voyons nous cette Amérique accusée d'avoir élu Donald Trump. Et je voulais votre opinion puisque vous, au contraire, la décrivez avec justement une absence de caricature. Mais ça n'était pas mon opinion que je mettais en avant.
Je comprends. C'est le même caricature des États-Unis, les gens de Montagne.
Justement, ce que vous avez fait, c'est que vous vous situez ailleurs que dans cette caricature dont nous, ici en France, on a la réception exclusive.
Because the caricature, any caricature is wrong. It is
n'importe
a stereotype.
Quelle caricature, par définition, est un stéréotype, un cliché.
It is cruel.
Donc le verre est dans le fruit, c'est forcément cruel et biaisé.
Right. So my idea with this book and all my work.
Et donc avec ce livre et l'ensemble des livres que j'écris.
Is to present the culture and the people.
C'est de présenter une certaine cette culture, ces gens, sous les traits d'êtres humains.
The same as all human
bien sûr,
beings.
Comme nous tous, comme
you
tous
love
les
your
humains.
Family.
Tous, on aime
you
notre
are
famille.
Smart, you are sensitive.
On a un cerveau, on
you
l'utilise.
Like to laugh.
On a une sensibilité, on aime rire.
You love your husband or your wife.
Vous aimez votre femme, votre mari.
You have ambitions to have a better life.
Vous aspirez à une vie meilleure. On est tous pareils.
The opposite of how the people in the mountains are regarded.
C'est
l'opposé
de la manière dont on applique justement ces préjugés à ces gens des montagnes, y compris aux États-Unis.
Which is what you're referring to,
et
right?
C'est ce que vous relayez, Hubert. Oui.
La caricature.
Cette caricature.
Why have a caricature? It is always false.
Et pourquoi ces gros traits? C'est toujours faux, une caricature.
Élise.
Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le livre, c'est effectivement ces portraits pleins d'humanité de ces hommes, mais aussi de ces femmes. Il y a plusieurs femmes très attachantes dans le livre, évidemment Rhonda, mais aussi Hattie, par exemple, ou la petite Jo, qui sont des femmes pleines d'amour, pleines de compassion, pleines de force aussi, pleines de courage, dont une qui est homosexuelle, qui veut vivre sa sexualité, par exemple, une qui va étudier et qui va on va le découvrir après à la fin du roman. Donc, toutes ces femmes sont un peu, finalement, l'anti-pornographie qu'écrivait votre père, peut-être. C'est-à-dire que vous leur donnez une place très importante, très belle.
Merci. It is a way to write about the women or to write about
c'est
the men as
being. C'est une manière d'écrire sur les femmes ou sur les hommes.
Who are intelligent.
Pour décrire des êtres intelligents.
Ambitious.
Ambitieux.
Courageous.
Courageux.
Compassionate.
Plein de compassion.
Generous.
Généreux.
And very strong.
Et très fort.
Et les femmes et aussi les hommes.
Ce qui est intéressant, c'est la construction du livre. La première partie s'arrête en 1954, après le coup de foudre entre Tucker et Rhonda, et la décision qu'ils prennent de faire du chemin ensemble. Et après, on se retrouve 10 ans plus tard avec deux responsables de l'hygiène sociale qui viennent inspecter la famille qu'ils ont construite et qui se compose surtout de 4 ou 5 enfants dont certains sont très, très malades. Et ce qui est impressionnant déjà, c'est effectivement le rapport de Tucker avec ses enfants, qui est un rapport qui oublie la maladie, qui oublie la difficulté, qui est dans une espèce d'affection totale, qui est presque au-delà de la réalité et des problèmes du quotidien. Et...
What man doesn't love his children?
Quel homme n'aime pas ses enfants?
Right? What woman does not love her
Quelle
children?
Femme n'aime pas ses enfants?
All parents want their children to be
Tous les parents
perfect.
Veulent que leurs right? enfants soient parfaits
and healthy.
Et en bonne santé.
And with full developmental capabilities.
En pleine possession de leurs right? moyens, qu'ils développent toutes leurs capacités.
We want that. But that is not always the case.
Or, ce n'est pas toujours le cas.
For some people, does that mean that that parent loves the child
Est-ce que ça veut
less?
Dire que le parent qui a un enfant qui ne s'est pas pleinement développé va moins l'aimer?
Because the child is not perfect?
Parce que cet enfant n'est pas parfait?
Non.
Non.
Non. And that is Tucker.
Et c'est ça le personnage de Tucker, c'est cet
so,
homme-là.
In the...
Ce père-là.
In the narrative, it's a way to demonstrate.
Et dans le récit,
the Tucker has humanity.
C'est une manière d'illustrer le fait que Tucker est plein d'humanité, de sensibilité. En
In addition to being violent.
En plus d'être un homme capable de violence.
And he is only violent.
Et
when
il ne recourt à la violence que lorsqu'on menace sa famille.
On a l'impression, quand on lit votre roman, que cette violence dont vous parliez à l'instant, eh bien, elle est effectivement nécessaire entre les hommes. Elle est presque inévitable. Elle fait partie de la vie ou de la survie des hommes. Mais j'ai l'impression que vous avez voulu nous montrer que la plus cruelle violence dans ce roman, c'est celle de l'État qui retire ses enfants à cette famille. C'est plus choquant. Beaucoup plus triste que la violence que s'infligent les hommes entre eux dans ce livre.
Oui. Exactement. America is a violent country.
L'Amérique est un pays de violence.
It's a very young country.
C'est un pays violent, très jeune.
Not even 300 years old.
Ça fait à peine 300 ans qu'il est né ce pays.
So it was the first big country to be established.
Et c'était la première fois dans le monde qu'on créait un grand pays très vaste.
After the invention of gunpowder.
Depuis l'invention de la poudre, un canon.
So the history of America is also the history of
l'histoire de l'Amérique.
Of the firearm.
Se confond avec l'histoire des armes à feu.
France is a very old country.
La France est un pays très vieux.
When France was established
lorsque
and
la France s'est façonnée et lorsque la France était un pays jeune,
it was also very violent.
Il y avait aussi beaucoup de violence.
Avec the knife, the sword,
on se donnait beaucoup de coups de couteau,
pike,
de sabre, d'épée, de lance, etc. Les catapultes, les arbalètes, etc.
So,
les lances des chevaliers.
The difference,
c'était plein de violence
aux États-Unis is The gunpowder
la différence, c'est la poudre, les armes à feu.
Worse. It's
parce que je pense en effet que c'est pire comme
so, this
arme.
Is part of the history of the country.
Et ça fait vraiment partie de l'histoire des États-Unis.
I am not trying to say it is good.
Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou de faire l'apologie de quoi
it's
que ce
just,
soit.
It is the
je
situation.
Constate.
So, And in la montagne, the people live close to nature.
Et dans la montagne, les hommes vivent très près de la nature.
And if you go, if you spend any time in nature, in avec les animaux sauvages,
longtemps au milieu de la nature, au milieu des animaux sauvages,
you will learn that nature is brutal.
Vous apprenez que la nature est brutale,
is cruel.
Violente, cruelle.
It does not care about humans.
Elle se fiche des humains.
It is the most beautiful part of existence.
C'est la plus belle partie de notre existence.
And the absolute, most brutal and cruel.
Et en même temps, c'est une entité des plus cruelles et brutales.
So people who live close to nature,
les gens qui vivent au contact de la nature
become influenced by the
sont
beauty.
Forcément très influencés par tout cet univers, sa beauté d'abord.
And the even a The mother fox.
Mais même par exemple une renarde, une mère renarde.
Will fight to the death.
Va se battre jusqu'à la mort.
For her babies.
Pour défendre ses petits, oui. Ses renardos.
It's the same for humans.
Même chose chez les humains.
Yes. The state is much worse.
Et oui, la violence de l'État est pire que celle de la nature. D'abord, l'État a plus de pouvoir sur nos vies. Il s'en fiche, l'État ne se soucie pas des individus, des personnes. Il ne se préoccupe que de lui-même, de sa bureaucratie, d'exercer un contrôle, une maîtrise, une oppression. Un homme avec un couteau contre l'État,
the state will always destroy
il
the
ne
man.
Pèse rien. L'État va toujours détruire cet homme.
On parlait des familles et des femmes. Il y a un personnage que j'ai trouvé bouleversant dans Nuit à Palage, Chris Offutt. C'est la sage-femme, Bella, dont vous écrivez qu'elle a accouché tout le peuple des collines. C'est la mère du pays, d'une certaine façon. Et à la fin du roman, la nuit, elle est aveugle. Elle se promène la nuit aveugle dans la forêt, dans les collines. Et elle tombe sur Tucker, qu'elle reconnaît en caressant son visage. Et j'avoue que ce personnage est extraordinaire. Là, on est plus dans l'histoire, ni même dans le réalisme. C'est un personnage carrément mythique, légendaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette figure de Bella?
J'aime Bula beaucoup. En la montagne, il n'y a pas les médecins, so no doctors, and so the midwife was.
Donc la sage-femme ou la coucheuse
and,
était très importante vu qu'il n'y avait aucun toubib dans le coin.
The people would take care of themselves.
Pour les accidents du quotidien, les gens se soignent eux-mêmes.
Until about the 1950s.
Jusque dans les années 1950.
The medicine, the doctors came into the mountains.
Et à partir des années 50, des médecins se sont installés dans ces montagnes.
So Bula had a position of great respect.
Et donc Bula jouissait d'un grand respect dans la montagne en raison de son rôle d'accoucheuse.
And I like the idea that she's mythical in the hills, but
j'aime cette idée. You know, vous dites que c'est un personnage mythique, légendaire,
you know, she,
qui représente l'âme des collines.
Is, she's blind from.
C'est en partie dû au fait que, en effet, elle est aveugle, tout simplement parce qu'elle souffre de cataracte.
But she knows the land.
Pas de soin, mais elle connaît très bien la topographie du terrain. Elle connaît les terres qui entourent la maison.
And that is an unusual,
elle arrive à se déplacer malgré sa cécité.
Mythical, vision to
ce
see.
Qui en fait, voilà, un personnage. Elle apparaît comme une vision un peu mythique.
And I needed, I needed a good ending.
Et puis il me fallait une bonne chute, une bonne fin.
Pour le roman, like there's the big violent ending. But I needed
donc, il y a pas mal
a little bit more.
De violence. Il y a une explosion de violence à la fin. Bon, mais j'avais besoin d'autre chose.
And I thought this was
en plus.
A perfect, well, I mean, not perfect, a very good way of
et j'ai trouvé que c'était, oui, pas une parfaite manière, mais une très bonne manière de clore le roman.
Together.
Ça en fait quelque chose de cohérent.
Chris Offutt au micro de Mauvais Genre à l'occasion de la sortie aux éditions Gallmeister de son dernier roman, donc Nuit à Palache, que nous vous recommandons dans la très bonne traduction d'Anatole Ponce. Et les propos de Chris Offutt étaient traduits par Eve Dair. Et nous remercions bien sûr Olivia Castillon d'avoir rendu possible cette rencontre. Réaction d'ailleurs de Benoît Tadier qui lui a lu Nuit à Palache, mais bien avant nous, puisque lui il a lu en anglais, en américain plutôt.
Oui, bah c'est effectivement un très beau livre que je recommande chaleureusement. C'est un livre qui plonge dans la tradition qu'on peut appeler du polar rural américain, hein, qui a déjà été bien illustré avant lui, comme il le dit d'ailleurs, dès les années 40, par des auteurs comme James Ross. On peut même remonter, si on veut, à Caldwell et Faulkner. Hein. Et il y a toute une tradition ensuite qui passe aussi par Charles Williams et qu'on connaît également aujourd'hui par Dan Woodrow, qui fait aussi des beaux romans assez proches de celui-ci. Donc, effectivement, c'est toujours ce retour au peuple paysan poussé au crime par des conditions de vie extrêmement dures et avec des personnages très attachants, taciturnes, mais courageux.
Et la langue, comment est-elle, vous qui avez accès?
La langue est belle, d'autant plus que, comme vous le disiez, ça se rattache en même temps à la tradition du nature writing, donc ça crée un contraste assez fort entre l'action qui est très violente et puis un environnement naturel assez idyllique avec de belles descriptions de la faune et de la flore qui viennent s'intercaler dans l'action, donc ça donne un effet de contraste assez puissant.
Hubert Prolongeau, dernier mot.
Oui, non, c'est effectivement une espèce de livre jonction entre plusieurs genres qui existent et arrivent à les transcender un peu tous en les mêlant. C'est une vraie réussite.
Christophe Hutt, Nuit à Palache chez Gallmeister. William Riley Burnett, Underworld, roman noir, second sujet traité ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Alors Benoît Tadier, quand on regarde les dates du sujet du citoyen Burnett, 1899-1982, voilà un homme qui n'a pas été fauché jeune par la violence de la vie et la cruauté du destin. Cette carrière, comment peut-on la décomposer, surtout sur le plan littéraire, puisque quand on regarde le tableau de chasse de William Riley Burnett, eh bien c'est surtout le cinéma qui nous apparaît.
En effet, c'est quelqu'un qui a été un peu victime de son succès au cinéma, et donc la plupart de ses grands romans ont aussi donné de grands films, et c'est aujourd'hui les films que les titres évoquent plus que les romans. Des films, bien sûr, comme au départ Little Caesar, hein, qui est le premier grand roman de gangster. Avec Edward G. Robinson.
Précis,
oui, qui est l'autre grand acteur. Et un film donc de 1930 qui adapte le roman de Burnett de 1929. Donc très tôt, il a connu cette transposition et ce succès à Hollywood. Ensuite, deuxième grand succès, High Sierra, qui est effectivement 1940, qui donne un film avec Bogart l'année suivante, réalisé par Raoul Walsh, 1941. Et troisième grand succès, qui est d'ailleurs le livre qui ouvre ce recueil, Quand la ville dort, 1949, qui l'année même est adapté au cinéma par John Huston, et qui est sans doute le grand chef-d'œuvre du film noir. Donc on voit que ces trois grands livres, qui méritent bien sûr d'être lus en eux-mêmes, sont surtout aujourd'hui connus par les amateurs, disons, et le grand public, à travers les films qu'ils ont donnés, et du coup on a un petit peu oublié les livres qui avaient à l'origine de ces films. Voilà.
Hubert Prolongeau.
Avant Burnett, il y a eu Ahmed Chandler, il est d'une génération un peu postérieure. Est-ce qu'il a introduit une rupture ou autre chose en amenant un monde moins de criminalité violente et plus d'économie dévastatrice, de capitalisme sauvage, même si on ne le disait pas à l'époque?
Alors je pense qu'il y a de vraiment nouveau chez lui par rapport à Hammett, qui est effectivement le grand inventeur du genre. Hammett, c'était quand même quelqu'un qui faisait essentiellement de la fiction de détective, donc qui avait le point de vue du détective hard-boiled sur le monde chaotique des années 20. Et la grande révolution qu'introduit Burnett, c'est de prendre le point de vue du gangster. Il s'intéresse pas ni aux énigmes ni aux policiers. Il cherche à faire en fait un roman social réaliste à partir du point de vue des gangsters, qui étaient ignorés par la fiction, aussi bien la littérature avec un grand L que les publications pulp de l'époque qui s'intéressaient plutôt aux personnages de héros type détective. Donc ce qu'on peut dire qu'il a vraiment apporté, c'est ce renversement de point de vue et puis donc un intérêt pour la figure précoce, donc pour la figure du criminel de la prohibition qui aura une immense postérité puisque finalement tout le film noir à partir des années 40 qui justement renverse lui aussi la perspective et avant tout le roman noir des années 30 à la James Cain, Le facteur sonne toujours deux fois ou à la Horace McCoy, c'est finalement un film et un roman qui reprend l'invention de Burnett, c'est-à-dire prendre le point de vue du criminel et non pas celui du policier ou du détective et puis essayer de le comprendre comme un produit des forces sociales de l'époque et non pas comme une espèce de cerveau génial du crime comme vous voyez chez Sherlock Holmes ou autre.
Oui, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui a contribué à débarrasser un peu la figure du criminel d'une dimension presque fantastique, voire mythique, c'est-à-dire une sorte de génie du crime, et un petit peu surhumain, à le ramener à plus d'humanité, tout cela comme des personnages socialement extrêmement marqués. Donc la ville de Burnett, c'est Chicago. Les modèles, il les a largement trouvés à Chicago, qui était une ville par ailleurs extrêmement étudiée et sillonnée par les sociologues. Lui-même ne venait pas de Chicago. Alors, est-ce qu'on peut justement tabler sur cette espèce de choc entre un homme qui vient plus loin du monde rural face à la grande ville surviolente et qui a fait que sa curiosité a été accentuée au lieu de quelqu'un qui serait déjà préparé comme un New-Yorkais ou un Chicagoan qui aurait déjà goûté à la chose ?
Je crois que c'est ça. Il y a un moment vraiment central dans sa vie. Il le raconte d'ailleurs à plusieurs reprises ensuite. C'est sa rencontre avec Chicago. Il venait pas exactement d'un monde rural, mais il venait de l'Ohio, donc de l'Ohio, comme on dit en français, de ville de dimension beaucoup plus modeste. Et quand il est arrivé à Chicago parce qu'il voulait connaître la grande ville, ça a été une vraie claque pour lui. Il le dit. En bas de la chambre d'hôtel où il se trouvait, il y a des gangsters qui réglaient leurs comptes à coups de bombe. Il a été réveillé d'un coup en plein milieu de la nuit, paniqué. Il descend voir le veilleur qui est totalement blasé, il lui dit « ça arrive tous les jours chez nous, c'est normal ». Donc il se rend compte qu'il y a quand même une réalité totalement extraordinaire qui lui échappe et dont personne à Chicago même ne semble vouloir rendre compte puisque les gens étaient effectivement habitués et blasés en vivant dans ce milieu-là. Et donc il s'est dit « voilà mon sujet, voilà ce dont je dois parler ». Et il s'y est mis, il n'a plus jamais effectivement quitté ce monde-là jusqu'à la fin de sa vie puisque son dernier roman s'appelle précisément « Goodbye Chicago ». Il a été publié en 1981, l'année où il est mort.
Hubert Prolongeau.
Et il est toujours inédit chez nous ?
Alors celui-là, non. Celui-là, miraculeusement, a été publié donc juste à la fin de sa vie, aussi bien en anglais qu'en français. Mais il est vrai que dans les 13 années précédentes, il n'avait pas réussi à publier un seul manuscrit parce que plus personne ne voulait de ses livres. Donc il les écrivait l'un après l'autre et puis il les rangeait dans des tiroirs sans même plus essayer de les publier. Aujourd'hui, il doit y en avoir donc une dizaine. À ce que j'ai pu comprendre, on n'est pas sûr exactement de combien qui attendent publication.
Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? On ne sait pas.
On sait un petit peu, car en fait, comme il a vécu très longtemps, il a eu la chance, si on peut dire, d'être redécouvert dans les 2-3 dernières années de sa vie, et donc il a pu donner quelques entretiens. S'il était mort 5 ans plus tôt, on ne saurait presque rien de lui. Mais il a donné 4 ou 5 entretiens importants qui ont été publiés, aussi bien d'ailleurs en France à des gens comme Jean-Pierre Deloup ou Philippe Garnier qu'à des auteurs américains. Et donc il décrit un petit peu les projets qu'il avait à l'époque. Qui étaient souvent des projets sur donc la vie réaliste américaine, coupe d'une grande ville, et puis quelques histoires criminelles aussi, mais pas seulement. Car en fait, lui voyait vraiment le roman criminel comme une branche du roman réaliste, et pas seulement comme une écriture de genre.
Et ça a été un auteur à succès. C'est quelqu'un dont le parcours est un parcours à qui tout réussit, à l'inverse de certains de ses confrères qui ont peiné, enfin qui racontent des difficultés sociales qu'ils ont vécues. Burnett, non.
Effectivement, il a eu un très grand succès avec le premier livre qu'il a réussi à publier, parce qu'il avait eu quelques manuscrits refusés avant, mais Le Petit César, donc 1929, a été un succès colossal. Il a vraiment créé un mythe littéraire avec le gangster, et à partir de là, effectivement, il a été très demandé par les studios américains, et donc il a eu un grand succès commercial, si on veut. Mais vu qu'il pratiquait des genres qui étaient quand même considérés justement comme un peu inférieurs par la critique littéraire, il a toujours été cantonné par la critique et par l'histoire littéraire dans une position subalterne. Il n'a pas eu, à mon avis, la reconnaissance qu'il méritait, et c'est pour ça que le volume Quarto vient à point nommé pour essayer de la lui enfin donner en France.
Alors, volume Quarto que vous avez préfacé, bien sûr, Benoît Tadier, dont vous avez supervisé la réalisation. Alors, dans la préface, j'ai noté ceci. D'ailleurs, j'ai un jour entendu un meurtre à la radio. Il s'est produit dans un café d'où l'on retransmettait en direct la musique d'un orchestre de danse. On entendit distinctement deux coups de feu, la musique s'embrouilla et se tut brusquement, puis il y eut un silence de mort sur les ondes. Effectivement, Chicago était quand même ce genre d'endroit. Et néanmoins, Burnett a un rapport à l'écriture qui est assez, je dirais, européanisé, puisque ses grands maîtres vont de Balzac à Simenon. Il y a quand même une sorte de fascination, non pas, je dirais, pour un langage argotique, basique, sociolecte, comme disait la grande époque, mais plutôt pour des influences littéraires beaucoup plus européennes.
Absolument. Je crois que son maître, il le dit d'ailleurs beaucoup, c'était Balzac, hein, c'est certainement pas l'auteur auquel on aurait pu s'attendre quand on pense au roman de gangster, mais c'était vraiment ça. Et toute la tradition française, d'ailleurs, une des choses que nous publions pour la première fois dans ce volume, c'est les fragments d'un journal inédit de Burnett rédigé à la fin de sa vie, où il rencontre de ses goûts littéraires. Et effectivement, c'est beaucoup le réalisme du 19e siècle, français surtout, donc Balzac, Mérimée qu'il adorait également, et jusqu'à Marcel Aimé, dont il parle par exemple dans son roman Little Men, Big World, qui est le deuxième de la collection. Donc oui, parce qu'il s'intéressait aux forces sociales qui produisaient les personnages et pas simplement à des histoires d'action violentes ou spectaculaires.
Il y eut un long silence, puis sans ajouter un mot, le directeur général se pencha en avant et alluma la radio posée sur son bureau. Un instant plus tard, des appels de la police commencèrent à affluer de manière ininterrompue dans la petite pièce, des appels provenant des quatre coins de la vaste métropole. « Je présume, messieurs, qu'étant journaliste, vous connaissez les codes. Mais au cas où certains d'entre vous les ignoreraient, je vais traduire pendant quelques instants. » Il décoda les appels au fur et à mesure. « Ivrogne couché dans le caniveau. Autre ivrogne, fauteur de troubles, tentative d'agression, déjoué. Vol au supermarché. Autre ivrogne. Accident impliquant trois voitures. Ambulance de la police demandée. Ivrogne. Dispute conjugale. Homme blessé avec un couteau à découper. Voiture volée. Tentative d'agression. Jeune fille blessée. Ambulance nécessaire. Vol dans un magasin. Un suspect appréhendé. Bagarre d'ivrogne dans un dancing. Deux ivrognes. Petit garçon renversé par une voiture. Coupable en fuite. Accident impliquant deux voitures. L'une renversée sur le talus. Circulation bloquée sur Parkway. Grosse bagarre. Renfort anti-émeute requis. Voilà un extrait d'un texte qu'on ne connaissait pas, Hubert Prolongeau, puisque c'est le chapitre 1 de Asphalt Jungle, et jusqu'à présent, on avait beau tenir des considérations extrêmement élevées sur ce roman, on en ignorait le début. C'est un extrait de ce début, donc effectivement, Benoît Tadier, vous avez choisi un certain nombre de romans, en fonction de quoi et lesquels ?
Alors, nous avons choisi les romans de la période des années 50, car ils forment un tout, où c'est là que vraiment Burnett crée une espèce d'exploration très approfondie de l'univers criminel de la grande ville américaine. Et tous ces romans, donc il y en a 5 dans le volume, sont situés dans le même univers urbain. Il y a d'abord une trilogie qui est effectivement ouverte par Asphalt Jungle, qui est en français connu sous le titre de Quand la ville dort.
Quand la ville dort, chef-d'œuvre absolu, bien sûr, de Houston.
Chef-d'œuvre absolu de Houston. D'ailleurs, on retrouve à la fin du film, et non pas au début, la même scène que vous venez de lire. Et puis ensuite, il y en a deux autres qui sont également de très beaux livres qui ont été écrits un peu plus tard. Il y a... comment s'appelle-t-il le suivant?
Alors je vais les citer.
Dans les manches.
Rien dans les manches, donnant, voilà, tête de l'art.
C'est ça. Et puis après, Underdog, donc en anglais. Et puis The Cool Man des années 60. Et ça, ce sont tous des romans donc qui s'intéressent à au pourrissement, disons, de l'administration des villes sous le poids du crime, à l'interpénétration du monde policier et criminel, à la corruption. Et là-dessus, Houston campe ses personnages de gangsters qui sont souvent des personnes d'âge mûr, qui sont un peu au bout du rouleau et qui essaient de résister donc à ces forces qui petit à petit les jettent bas. Hein, c'est
alors
un peu tragique.
Certains vont penser effectivement qu'ils connaissent déjà les textes, mais donc faut répéter que non, on ne connaît pas les textes, puisque donc là, Marie-Caroline Aubert, donc co-directrice de la série noire, en a assumé la retraduction et le complément. C'est alors revenons sur la question, puisqu'elle est récurrente dans les débats sur la littérature noire aujourd'hui, Benoît Tadier. Là, il y a une grosse part de nouveauté, si j'ose dire. Il y a des erreurs croquignolettes qui ont été supprimées.
Oui, absolument. C'est Burnett tel que vous ne l'avez jamais lu. Effectivement, voilà. C'est très important. Il manquait entre 15 15 et 20% des textes de chacun. 15
et 20%, très bien.
Ce qui n'est pas rien. Comme vous l'avez dit, pour par exemple, Quand la ville dort, le premier et le dernier chapitre, c'est pas rien non plus. Ça a toute la dimension un peu littéraire, puisqu'effectivement, ces chapitres sont moins narratifs, mais ils campent le décor, ils sont très importants sur le plan philosophique aussi. Tout ça a été impitoyablement jeté aux orties à l'époque. Il fallait que ça rentre en 258 pages de format standard de la série noire. Donc on coupait allègrement, mais on coupait pas n'importe quoi. On coupait effectivement toute la dimension plus littéraire, plus descriptive, plus philosophique aussi. On argotisait beaucoup
sa plus. Sa philosophie, c'est laquelle par rapport à un nihiliste mélancolique comme Chandler ou un activiste communisant, marxiste comme Hamet, lui,
eh bien, je pense qu'il y a, il y a un petit quelque chose de Spengler sur la décadence de la ville, mais il y a en même temps quelque chose de beaucoup plus positif qui est une, comme je le disais tout à l'heure, à partir du point de vue des gangsters, une foi profonde dans l'intégration, fût-elle par le crime, des migrants dans la communauté qui font vivre, dans l'énergie, disons, de ce peuple. Et même son héros, son premier héros, qui est le petit César, finalement, qui est un fils d'immigré italien, c'est quelqu'un de très énergique qui fait l'Amérique de demain.
Benoît Tadier, donc, supervision, direction d'un volume que tous les amateurs littérature noire et policière se doivent de lire, William Riley Burnett, Underworld, roman noir, retraduction, présentation, enfin les textes véritablement lisibles. C'est en quarto, Gallimard, on termine cette émission, bien sûr, avec Christophe Beer.
50 ans sur les planches, une filmographie d'une centaine de titres, depuis ses débuts avec Max Linder en 1914. Gaby Morlaix est pourtant négligée par les cinéphiles, confite dans la naphtaline de l'occupation, sous le poids du triomphe du voile bleu, sublime trajectoire sacrificielle. En 1953, dans « Descendez-le à la prochaine », Frédéric Dard écrivait que « San Antonio » devenait « triste comme un film de Gaby Morlaix ». La gouvernante d'enfants portant le voile bleu, dévouée jusqu'à l'usure, arrachait des rivières de sanglots au point de masquer une carrière plus nuancée. Le titre du livre que Daniel Le Sueur lui consacre aux éditions Infodisque, « Gaby Morlaix, une star effacée », met autant en lumière la discrétion de la comédienne que sa disparition dans notre panthéon. Sa vie maritale avec Max Bonafou, ministre de Vichy arrêté à la Libération, contribua peut-être à cette injustice alors qu'elle avait refusé de tourner pour la firme allemande Continental. Avec patience, épluchant les archives départementales, la presse théâtrale et les corporatifs de cinéma, l'auteur fait émerger le portrait d'une femme vivace et secrète, angevine née Blanche Pauline Fumolo en 1893, s'échappant à 16 ans de l'internat religieux de Lisieux pour gagner la capitale. Elle ne dévoilera jamais rien de son enfance. L'élève dactylo chez Pigier fait de la figuration à 3 francs le cachet, devient girl dans des revues au Théâtre des Capucines, virevolte dans des vaudevilles. Elle séduit par sa spontanéité et son rire saccadé. Elle se promène au bois de Boulogne au volant de son motoscooter et, après 52 ascensions préparatoires, obtient son brevet de pilote de dirigeable. Cette casse-cou déterminée serait trop petite pour convaincre dans un drame. À l'entêtement d'Henri Bernstein, elle doit son changement de registre en 1926. Elle lui reste fidèle, incarnant les personnages dépressifs de ses pièces brutales. Auprès de Victor Francen, Harry Bore, Rému, Charles Vanel, Jules Berry, elle illumine le cinéma populaire des années 30, qui en fait souvent une victime de l'amour. S'il ne fallait retenir qu'un film, Le Bonheur de Marcel L'Herbier, dans lequel un caricaturiste anarchiste tire sur un symbole de futilité, une star de cinéma. Elle n'est que blessée. Au tribunal, elle le défend, découvrant les vertus de la sincérité après avoir échoué avec un discours préparé. Ils vont s'aimer. Gaby Morlaix se perd dans les méandres pirandelliens de cette fable, frivole et tragique, piégée par les artifices de son métier, amoureuse, mais trahissant cette relation si intense en la rejouant dans un nouveau film. Il la quittera, se contentant désormais de son image dans une salle de cinéma. Une image dont Daniel Le Sueur restitue pour nous l'émouvante complexité.
Merci Christophe Beer. Prochain livre de Benoît Tadier.
Je ne sais pas encore.
Faites-nous rêver. Rien n'est encore.
On espère un autre quarto consacré à un grand auteur de romans américains.
Voilà, c'est tout le mal qu'on nous souhaite et qu'on vous souhaite. Effectivement, en tout cas, bravo pour ce William Riley Burnett Underworld, roman noir. C'est chez Quarto Gallimard. Et puis Nuit à Palache de Christophe Hutt, c'est aux éditions Gallmeister. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Olivier Dupréciam, Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Hubert Prolongeau, Christophe Biré, François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. Rendez-vous samedi prochain pour une rencontre avec le romancier Jacques Abeille.